Alors bonsoir, je remercie Xavier Davra de m'avoir demandé de présenter son ouvrage sur John Coltrane. Je suis Yves-Charles Grandjean, je suis professeur de littérature américaine à l'université de Bordeaux 3. Et Xavier Davra, il a de multiples casquettes. La principale peut-être, c'est qu'il est professeur à Montesquieu, Bordeaux 4, l'université de droit, où il fait diverses choses. Il anime un séminaire sur la création intellectuelle. Il est spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré Xavier il y a quelques années, lorsqu'il est venu communiquer chez nous. Chez nous, je veux dire, dans notre centre de recherche d'américanistes à Bordeaux 3, où il a communiqué à diverses reprises sur la littérature et surtout sur le cinéma nord-américain. Il n'y a jamais parlé de jazz, je ne crois pas. Il aurait pu, sans doute. Xavier est amateur et spécialiste de jazz depuis longtemps. J'ai appris récemment qu'il s'était, dans une vie antérieure, essayé à une interprétation sur la guitare. Il a animé pendant longtemps une émission sur France Télévisions sur la musique, notamment, mais pas exclusivement, le jazz. Il a collaboré régulièrement avec de nombreuses publications spécialisées, la plus connue étant Jazz Magazine. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Jazz Magazine. Et c'est cet aspect de l'activité de Xavier qui nous vaut d'être ici ce soir, à l'occasion donc de la publication de son récent opus, Tombeau de John Coltrane. Il y a un écho dans le micro, j'essaye de parler doucement. Un opus qui fait suite à un premier ouvrage en 1995 intitulé John Coltrane, qui était paru aux éditions du Limon. Cet ouvrage, donc l'ouvrage Tombeau de John Coltrane, est paru aux éditions Parenthèse il y a quelques mois. Je ferai une présentation en deux temps pour ne pas trop abuser de votre patience. Je dirais quelques mots d'abord de l'approche de Xavier dans ce travail. Et puis ensuite, j'essaierai d'en donner une idée pour ceux qui ne l'ont pas lu, en espérant que ça peut donner des envies de lecture, comme moi, ça m'a donné beaucoup d'envie d'écoute. C'est un livre qui donne envie d'écouter de la musique. Alors, quelques mots donc pour commencer sur l'approche ou l'entame qui est celle de Xavier dans ce travail. J'étais d'ailleurs un peu surpris que Xavier me demande de présenter ce livre, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de jazz. Comme je l'ai dit, je suis spécialiste de littérature américaine. Et bon, entre autres de littérature afro-américaine, alors on peut faire un lien bien sûr à ce niveau-là. Mais enfin, c'est surtout d'abord comme ça, parce que j'avais lu des travaux de Xavier et que je les avais aimés, que j'ai apprécié de le suivre dans cette aventure, cet exposé du parcours de Coltrane, qui n'est pas seulement d'ailleurs un parcours horizontal, mais qui est aussi l'occasion, je dirais, de se plonger véritablement, profondément, dans l'œuvre de Coltrane, de s'y lover. Et j'ai découvert que ma position d'extériorité relative vis-à-vis de ce chant était sans doute un handicap, dans une certaine mesure, puisqu'elle m'empêchait de mesurer l'érudition qui me semble, de ma position de profane relatif, absolument prodigieuse, érudition de musicologue, érudition de discographique aussi, qui sous-tend le travail, la première partie de ce livre, et encore plus la deuxième partie, qui fourmille littéralement de références. Et en revanche, je dirais que ma position d'extériorité relative m'a permis d'apprécier justement, d'une part, ce qui dépasse dans ce travail l'exposé érudit. D'abord, je voudrais dire que j'ai été sensible au fait que, justement, il m'a semblé que, même si l'érudition est poussée, je dirais, à un degré assez extrême dans ce livre, il est clair que, et c'est une position assumée, je pense, et il pourra nous le dire chez Xavier Davra, que cette érudition, ce phénomène d'empilement, de multiplication, de fourmillement de références, qui d'ailleurs s'approche un peu d'une forme de démesure dont il est question à propos du jeu de John Coltrane. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes un peu de mimétisme là, qu'on observe à divers degrés. Cette érudition ne prétend pas rendre compte de son objet. Le corpus est là, mais je ferai un lien avec la conclusion de l'ouvrage. Le corpus, comme le corps, est là, mais n'est pas totalement là, c'est-à-dire que le corpus pointe vers une absence. Il ne prétend pas rendre compte de son objet, le jeu de l'artiste dépassant inévitablement ce qu'on peut en dire. Et il y a une part, je dirais, de distance et peut-être même d'échec, une part de travail du négatif dans ce livre. Échec de l'exégèse, échec du compte-rendu, échec du commentaire, échec assumé qui fait l'intérêt du propos parce qu'il tend vers autre chose et que c'est de cette distance de l'exégèse à son objet que je pense que c'est dans cette distance que Xavier tire ce qui est l'énergie de son écriture. Il y a un véritable travail d'écriture dans ce livre qu'il faut saluer. Et évidemment, c'est quelque chose à quoi j'ai été très sensible, d'autant plus que le texte de Xavier, dans sa volonté, dans son obstination, dans sa persévérance vis-à-vis de cet objet, avec cet objet donc qui est approché à travers des nuées de références, une myriade d'interprétations, tout un déploiement lexical, un peu, encore une fois, à l'image du musicien qui parcourt toutes les ressources, qui active toutes les qualités du matériau sonore. C'est quelque chose qui, dans ce livre, tend vers une forme, un moment, une figure, mais qui la laisse, au bout du compte, s'échapper. Et c'est cette adéquation du travail d'écriture, un travail donc qui insiste et qui se déploie ici, cette adéquation du travail d'écriture à son objet, c'est-à-dire l'écriture de John Coltrane, qui m'a frappé d'emblée et qui m'a fait plaisir, j'ose le dire. Alors ce livre de Xavier Davrac, est, en fait c'est son deuxième livre sur Coltrane, et il y aurait sûrement quelque chose à dire, tu nous en diras peut-être quelques mots de ce phénomène de ressassement. Et encore une fois, le ressassement est au cœur du travail de Coltrane, tu le montres très bien. Ce livre est donc beaucoup plus qu'un travail d'érudition, hein, c'est une quête. C'est une tentative de donner à percevoir, par le biais d'une approche que je dirais holistique, une approche donc qui multiplie les entames, les accroches, de donner à percevoir le caractère holistique de la démarche de Coltrane. Dans ce livre, il est beaucoup question d'esthétique, mais il y a aussi question d'histoire, bien sûr, d'histoire du jazz, de ses codes, des codes, des interprètes, des formations, des filiations, des influences, une histoire d'une communauté, dans laquelle le travail de Coltrane s'inscrit, puisque le musicien ne travaille jamais seul, et ça c'est quelque chose qui ressort très fortement de ce livre. Il est aussi question de poétique, il est question de philosophie et de littérature, on trouve, on voit passer, mais de façon assez discrète, mais toujours très pertinente, Blanchot, Jabès, Rosset. J'ai vu John Hawkes passer une fois. J'ai été tout à fait sidéré par cette apparition de John Hawkes. J'étais moins étonné par la présence de Fitzgerald, Mallarmé, Baudelaire. J'ai aussi trouvé Proust au détour d'une page. Donc c'est bien sûr un travail qui est d'une richesse absolument extraordinaire, mais qui reste léger dans sa façon de mobiliser cet immense réservoir de références qui permettent référence d'éclairer la démarche de Coltrane. Mais il est aussi question dans ce livre, et ce sont des choses qui m'ont intéressé, et il est question bien sûr d'histoire culturelle, d'histoire politique des Noirs américains. Il y est question aussi de quête spirituelle. Il n'y est pas question que d'esthétique, même s'il y est surtout question d'esthétique. Alors, que trouve-t-on de façon plus précise dans ce livre ? On a là un livre en deux grandes parties qui sont suivies d'une discographie de Coltrane et d'un index. La première partie s'intitule « Portrait, territoire » et c'est un texte d'un seul tenant, une sorte de monographie en 10 chapitres qui répond au travail du saxophoniste. Et je souligne « répond » parce que j'entends dans « répond » un lien avec une tradition afro-américaine centrale dans la littérature, dans la culture afro-américaine, qui est celle du call and response. Quand on a call, il y en a somebody calls, the preacher, voilà, et on répond. Et il y a cette relation, voilà, d'aller-retour, cette relation dialogique entre un énoncé et une réponse. Et véritablement, on peut dire à cet égard précisément que le texte de Xavier est une response, à l'énoncé ou aux énoncés de Coltrane. Dans un premier temps, Xavier Davras situe Coltrane sur son terrain, dans un contexte, dans un milieu, à l'intérieur d'un champ, et il en donne la position et il en esquisse le trajet, le déplacement. Dans un deuxième temps, Xavier nous donne à comprendre, à voir les caractéristiques qui définissent la spécificité du jeu de Coltrane, à la fois d'un point de vue formel, d'un point de vue technique, mais aussi et surtout peut-être d'un point de vue sonore. Et il en dégage une logique, il en dégage des enjeux qui sont à la fois esthétiques, philosophiques, culturels et spirituels. Et enfin, dans un troisième temps, le livre évoque la postérité de Coltrane. Cette postérité apparaît de façon très claire dans la deuxième partie du livre. J'ai dit que c'était un livre en deux parties. La deuxième partie s'intitule « Parage, silhouette » et elle se présente sous la forme d'un défilé alphabétique. Des saxophonistes qui, d'une façon ou d'une autre, ont été, à des degrés divers, marqués par le travail de Coltrane, portent la marque et activent son héritage, en tout cas en disent quelque chose. Et cette partie est structurellement très différente de la première, puisqu'elle est composée d'un ensemble, disons, de fiches, puisque chaque musicien a droit à une entrée, des entrées qui sont plus ou moins longues, parfois assez courtes, une demi-page, et pour certains musiciens plus proches de Coltrane, et dont Xavier Davras est sans doute aussi plus proche, des entrées plus longues. Dave Liebman, 3 pages, Joan Lovana, David Murray, Art Pepper, dont on sent qu'il pourrait y avoir là, dans cette entrée, l'amorce de quelque chose de plus important. Sam Rivers, Pharoah Sanders, Archie Shepp, Wayne Shorter. Là aussi, sur Wayne Shorter, on a 8 pages. Hein, donc c'est quand même, c'est presque une étude. C'est pas juste une note, hein, et d'autres. Je ne dresserai pas toute la liste, mais il est intéressant de voir que chacune des entrées reprend, à propos de chacun des musiciens convoqués à l'occasion, la démarche que Xavier utilise dans sa présentation de Coltrane. C'est-à-dire, d'une part, on situe le musicien, d'autre part, on en définit l'identité sonore, la position esthétique, et puis on essaye de faire apparaître les enjeux du travail qui est présenté. Cette deuxième partie montre clairement que le tombeau de John Coltrane est loin d'être fermé. Bien sûr, il ne faut pas lire ce titre comme une invitation à enterrer une fois pour toutes Coltrane. C'est bien sûr exactement le contraire. Cette partie permet de relever, au sens fort du terme, l'actualité, la vivacité de l'héritage de Coltrane, l'écho toujours réactivé de ses préoccupations, de ses avancées, de ses obsessions. Mais je passerai encore un petit peu de temps sur la première partie, qui est véritablement la monographie sur Coltrane, qui commence par trois chapitres, donc qui situe Coltrane dans sa relation à d'autres grandes figures tutélaires du jazz. On voit d'abord Charlie Parker, dont Xavier montre que le Coltrane bop du début recueille l'héritage en même temps qu'il s'en démarque, qu'il l'infléchit assez vite pour poser sa propre marque. Et là, on a l'émergence, hein, on assiste à l'émergence de ce qui va faire le jeu de Coltrane, dont tu repères très vite les caractéristiques saillantes dès la page 23-24. J'aimerais lire des citations, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir le temps. Donc je vais peut-être passer sur les... ou je vais en lire une quand même, pour que vous ayez une idée quand même du texte, qui n'est pas qu'un commentaire, mais qu'on entende un peu le texte. Donc il s'agit des enregistrements avec Miles Davis, ici, et je lis les enregistrements avec Miles Davis ne sont pas dépourvus des traits inattendus par lesquels se forge le jeu coltranien. La sonorité dure, les changements rapides, la tension rémanente sur Little Maloney et Two Bass Hit, le cri dès l'entrée du saxophone sur Little Maloney qui annonce une interprétation ultérieure, les soubresauts dans l'ouverture du second chorus, l'urgence turbulente du solo manifestée dès le début de l'intervention, la durée d'improvisation que s'octroie le musicien. Il y a beaucoup de passages que j'aimerais citer, mais bon, je crois que je vous laisserai les découvrir vous-même. Donc, à cet endroit du travail, Xavier s'intéresse à ce qui rapproche et distingue Coltrane d'autres grandes figures. Donc, j'ai mentionné Charlie Parker, il faut parler aussi de Sonny Rollins, et Xavier écrit de très belles pages sur le jeu de Rollins et sur la façon dont le jeu de Sonny Rollins éclaire en retour la singularité de Coltrane. Et puis, bien sûr, vient l'évocation de la relation avec Miles Davis, et il y a là une sorte d'opposition, hein, et de complémentarité des deux musiciens dont Xavier montre très bien comment, aspirant chacun à sa manière vers une certaine forme de dépassement, de transcendance, il dessine deux voies très différentes. Coltrane, travaillant par la saturation vers une forme d'exhaustivité, alors que Miles, travaille par le biais d'une certaine forme d'épuration, va vers une abstraction, une fragilité qui peut aller jusqu'au minimalisme. Et on voit là aussi une opposition entre le mélodique et l'harmonique. Tout ça se pose de façon très claire. Et ce qui apparaît aussi très clairement dans ce début du livre, ces trois premiers chapitres, et celui qui suit, qui s'intitule « Souveraineté » de John Coltrane, c'est l'évidence de l'inscription du jeu de Coltrane dans une communauté. C'est-à-dire que même si ce livre est un hommage à une figure exceptionnelle, cette figure apparaît toujours prise dans un tissu très très serré de relations, d'influences, d'échanges. Le jazz est toujours polyphonique et dialogique, et le jazz de Coltrane l'est aussi. Et ceci apparaît de façon, je dirais, très forte dans la première partie de l'ouvrage, et je voulais le souligner parce que le titre pourrait laisser penser qu'il y a une sorte d'iconisation du génie Coltrane, alors qu'on voit aussi très bien paraître la dimension collective de toute performance singulière, y compris des improvisations, y compris des solos de Coltrane. Le solo n'est jamais solitaire. Alors les quatre chapitres, ça c'est le début. Ensuite on a quatre chapitres qui contribuent à la définition d'une esthétique Coltrane, de Coltrane, coltranienne, je ne sais pas comment tu dis ça en français, coltranienne, et de ses enjeux et du projet qu'il apporte. Il y a un chapitre de l'entropie qui analyse les constituants, en quelque sorte, de ce qui fait l'originalité de la forme et du jeu de Coltrane. Alors là, c'est très très clair, hein, l'exposé est vraiment très pédagogique. On voit en quoi le choix, par exemple, de l'analyse et de l'exploration harmonique, mais une exploration qui est systématique chez Coltrane, Giant Steps, donc, à cet égard, constitue un tournant. Cette volonté donc, d'explorer le territoire harmonique dans sa totalité, qui confine, tu le montres bien, à l'obsession, de le recouvrir, mais par décrochage, par embranchement. Ensuite, bien sûr, le choix de la modalité, hein, de la musique modale, qui est très important. La volonté de saturation de l'espace, de parcourir cet espace dans tous les sens. L'élargissement aussi de l'unité sonore, constitutive, élémentaire, puisqu'on passe de la note à l'agrégat de notes, des agrégats qui sont en quelque sorte insécables. Le ressassement, la circularité, la reprise, et puis donc la nécessité d'envisager le travail du musicien dans sa globalité. Chaque mise en jeu, chaque remise en jeu d'un thème, n'est-ce pas, répondant à un projet global. Ensuite, dans le chapitre 6, qui s'intitule « Anatomie d'un quartet », on revient vers la communauté d'une certaine façon, puisqu'on resitue le jeu de Coltrane dans le contexte de son quartet, notamment des relations fondamentales, déterminantes, qui s'établissent avec Alvin Ray Jones, le batteur. Il y a de très belles pages là, à cet endroit, sur la puissance du jeu, du batteur et du saxophoniste, avec le pianiste McCoy Tyner, et plus tard avec Pharoah Sanders en duo. J'ai relevé quelques beaux passages sur la copule entre Coltrane et Sanders. On a l'impression, là, on a le sentiment qu'il y a une relation presque érotique qui s'établit entre ces deux saxophonistes. Et on revient donc à cet endroit du texte, à l'évidence de la nature collective du travail, même s'il est singulier, avec une citation de Tyner Notre seul mot d'ordre a toujours été jouer, jouer jusqu'à plus soif, les uns pour les autres, les uns en fonction des autres. Le chapitre 7, Free Train, évalue la place de Train dans la mouvance Free et profite de l'occasion, ça m'a aussi beaucoup intéressé, pour contester la légitimité de certaines condamnations de Coltrane de la part de certains critiques qui pourraient s'ériger en défenseurs du bon goût, hein, ou d'une certaine orthodoxie ou d'un certain académisme. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, le propos de Xavier va beaucoup plus loin que la volonté de démontrer que Coltrane a une position d'infraction, de rébellion par rapport au code du bon goût. En fait, ça va plus loin que ça, puisque ce chapitre pose la question de ce que sont les codes du bon goût. Ce en quoi tous les procès en mauvais goût pourraient bien être que l'expression d'une volonté culturelle, hégémonique, d'une certaine critique occidentale refusant de considérer l'altérité radicale d'un jeu qui s'ancre dans une autre esthétique que l'esthétique occidentale. Et donc on a ici une amorce de critique culturelle qui m'a semblé tout à fait prometteuse. On relève ensuite les éléments donc constitutifs à nouveau de cette esthétique coltranienne. Alors il y a un phénomène aussi un petit peu de volute dans l'écriture de Xavier, où je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de voir un phénomène de convergence avec le travail du musicien. Et puis enfin, pour terminer, le chapitre 8, une esthétique orphique, aborde la question de la dimension religieuse et spirituelle qui s'affirme chez Coltrane à partir de A Love Supreme en 1964, ce qui donne aussi l'occasion de poser la question de l'africanité à propos de McCoy Tyner, dont je crois que tu écris qu'il rehausse la pertinence de cette question chez Coltrane. Et tu replaces ceci dans une tradition afro-américaine où tu as tout à fait raison de montrer que le religieux n'a jamais été l'ennemi de l'engagement politique, au contraire. Hein, toute l'histoire des civil rights le démontre de façon éclatante, mais toute l'histoire des Afro-Américains, on pourrait dire. Le chapitre 9 se dresse contre tous les lamentations, les tristes prophètes, les oiseaux de mauvais augure et autres embaumeurs ayant décrété la fin du jazz, la mort du jazz, la fin du swing, la fin des avant-gardes. Et là, d'ailleurs, tu te poses dans le champ de la critique jazzistique en réglant quelques comptes au passage, en participant au débat actuel sur cette question de la fin du jazz. Bien sûr, tu montes au créneau contre cette annonciation, tu montres la vitalité persistante du jazz, tu te démarques bien sûr de toute critique qui serait enfermée dans la nostalgie, mais tu concède quand même que le contexte culturel, celui de la marchandisation forcenée de l'art, pourrait mener à la formation de ce que tu appelles un lumpen jazz, qui serait entouré d'une, je te cite, d'une jazzophilie souterraine. La question est celle de la condition du jazz aujourd'hui. Et mais tu réponds à ce chapitre 9 par ton dernier chapitre, le chapitre 10, où tu donnes quelques exemples tout à fait brillants et tout à fait jouissifs, hein, d'écho, de réponse, encore une fois, de réponse posthume à Coltrane, de l'enregistrement en octobre 67, c'est-à-dire 3 mois après la disparition de Train, du One for the Train d'Archie Shepp jusqu'à Un Impression en 2002 de Dave Liebman et Mark Copeland. Et je passe, je ne dresse pas toute la liste. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres hommages qui sont extrêmement touchants que tu évoques de façon très touchante aussi et de façon très juste. Et les derniers mots du livre sont « Impression est un cénotaphe ». Voilà, le livre se conclut sur cette phrase. « Impression est un cénotaphe ». Alors, je vous rappelle qu'un cénotaphe est un tombeau vide, un tombeau qui est élevé à la mémoire d'un mort, mais qui ne contient pas son corps. Et tel est clairement le tombeau que tu as souhaité ériger ici, à la mémoire de Coltrane. Le corps, effectivement, est ailleurs, il est partout, tout au long de ce que tu évoques dans ta deuxième partie, qui est tout sauf un cortège funèbre, qui est la marque de la puissance créatrice qu'attise le corps absent, la marque de sa constante, de son intarissable force de dissémination. Alors ceci m'amène à ma première question. Je te poserai quelques questions avant d'ouvrir le débat vers le public. Ma première question concerne donc cette dernière phrase, le cénotaphe, et l'hypothèse selon laquelle ton propre livre serait un cénotaphe. Je ne sais pas si tu la valides. Est-ce que tu la valides ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, merci. Merci, Charlie. Je suis très touché par ta lecture, que tu dis extérieure, mais qui est rentrée dans toutes les arcanes de ce livre, hein, jusqu'à boucler la boucle du tombeau au cénotaphe, effectivement, pour dire oui, que le tombeau est vide, parce que l'art de Coltrane, pas dire le génie, mais l'art de Coltrane continue évidemment à irriguer une bonne partie du jazz qu'on dit moderne jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les toutes dernières générations. Et effectivement, les annonciateurs de la mort du jazz, qui sont assez régulièrement contredits par une certaine vitalité de cette musique, oublient très facilement d'aller écouter et rechercher ce qui peut être créatif aujourd'hui, même si c'est éventuellement plus difficile, puisqu'il y a un langage du jazz qui s'est standardisé, comme dans d'autres formes de musique. J'ai pris à Debussy qui parlait d'un langage homologué. Je crois que c'est bien ça. L'homologation d'une forme de jazz qui était transgressive à un moment, qui franchissait certaines barrières de canon esthétique ou harmonique, et que l'on peut retrouver chez Coltrane, mais chez d'autres également, Ornette Coleman, Sonny Rollins à sa manière, puis bien d'autres musiciens, et puis qu'on pouvait retrouver aussi chez des musiciens de génération précédente, pour ne pas oublier le jazz classique, font partie aujourd'hui d'un langage que l'on apprend dans les écoles de jazz, hein, tout simplement. Et donc, effectivement, si le tombeau est vide, la deuxième partie vient dire, avec cette quête un peu obsessionnelle du coltrénisme jusque dans les générations les plus récentes possibles, comment Coltrane vit.
Oui. Et alors moi, j'avais trois hypothèses à te présenter. Enfin, j'avais compris ça de trois façons différentes. Si le livre est un cénotaphe, première hypothèse, est-ce que c'est parce qu'il échoue, mais joyeusement, à rendre compte, à donner, à voir le corps du musicien? Parce que tel est le destin de toute exégèse, enfin de tout commentaire critique. Est-ce que ça dirait quelque chose de l'entreprise critique et de ce à quoi tu t'attelles, hein? Ça, c'est la première hypothèse. ce corps reste insaisissable. Et tant mieux. Deuxième hypothèse, est-ce que ça peut être aussi parce que ce vers quoi ton propos se tourne, à savoir le travail de Coltrane lui-même, est tourné, tu le montres bien, vers une sorte d'absolu qui reste en retrait. Ce travail est creusé par le retrait, par une certaine forme d'absence qui provoque d'ailleurs cette exaspération du propos coltranien, cette obstination que tu décris très bien, ces phrases ou ces phrasés qui s'énervent, ce débit qui s'exaspère indéfiniment. Et puis la troisième hypothèse, c'est est-ce que si le corps est absent, c'est parce que notre position de critiques occidentaux nous place en position d'étrangeté à l'histoire, au contexte culturel hors duquel je ne dirais pas qu'on ne peut pas appréhender le travail, bien sûr qu'on l'appréhende, mais hors duquel le travail de Coltrane ne peut pas délivrer tout son sens. Vous avez pensé à ces trois aspects du cénotaphe, le premier qui dit quelque chose de ton travail, de l'entreprise critique, le deuxième qui dit quelque chose du travail de Coltrane, et le troisième qui dit quelque chose de l'interculturel, enfin de la question de l'interculturel.
Oui, échouer à voir le corps, oui, en tout cas l'ouvrage modestement peut voir le corpus coltranien, mais le corps, le corps un peu moins. Il y a une opacité coltranienne permanente, quelque chose qui est inapprochable, quelque chose qui est de l'ordre par moment du titanisme que l'on aborde avec méfiance, avec difficulté, qui résiste, qui est une part insaisissable, ce qui ramène d'ailleurs peut-être à ta deuxième proposition. Il y a un absolu coltranien qu'on ne peut pas atteindre, même si on essaie de rentrer dans une spiritualité ou dans une endurance qui va de pair avec cette spiritualité et qui prend ses formes rituelles, psalmodiques, etc. Du répond, et même au sens musical, du plein chant grégorien, de ces amen chords, comme disent les musiciens, comme pour répondre en disant amen. On revient au preacher, là. Oui, ça c'est évident. L'idée de pouvoir saturer et comprendre entièrement Coltrane, je crois, est impossible, d'où le tombeau qui fait que s'il y a une part qui est monographique, il s'agit plutôt d'approches multiples et de séries de textes qui vont entourer le sujet et qui vont essayer de célébrer Coltrane, comme on disait, d'un tombeau littéraire. L'idée est là. Et puis, bien sûr, alors la position de critique occidentaux rend la chose difficile. Tu as dit le mot qui convient pour Coltrane et pour l'ensemble du jazz, c'est l'altérité. C'est l'altérité fondamentale de cette musique. Et je me souviens d'un entretien de Miles Davis, alors qu'il disait avec l'humour distant qu'il caractérisait et qui était assez méchant de temps en temps, répondant à une critique d'un de ses enregistrements, une critique qui l'avait descendu, il avait tout simplement dit « Mais qu'est-ce qu'un critique blanc peut comprendre à la musique de 9 musiciens noirs ?» Bon, et il avait clos pratiquement le débat, là, effectivement. Qu'est-ce qui peut autoriser le départage qu'il y aurait entre une conception du beau selon effectivement des critères de la musique européenne occidentale qui vont dans le travail instrumental, qui vont obliger à passer par un certain nombre de canons. Contrôle du phrasé, contrôle du vibrato, etc., etc. S'il s'agit du saxophone, le travail contemporain sur le saxophone va lisser et polisser le son du saxophone pour trouver à pouvoir réaliser une masse qui est tout à fait homogène. Alors que lorsqu'on entend Coltrane ou d'autres, on va avoir un son de saxophone qui ne cache pas la corporalité dans l'instrument, dans des effets qui m'ont des effets de lèvres, de souffle, de labial, de couinement, etc. Et donc, effectivement, le beau occidental, là, cède la place devant une autre forme de beauté. Qui est plus
ça me fait penser à un roman de Toni Morrison qui est assez connu, qui s'appelle The Bluest Eye, et où justement Toni Morrison fait la critique de cet esthétisme et de cette esthétique occidentale et axe sa critique justement principalement sur le rejet du corps. Et autant là, tu viens de le dire, la musique est totalement et passionnément incarnée. Toni Morrison appelle ça le funk, hein, le funk, mais incarné dans un corps, un corps dont tous les éléments sont acceptables. Hein, il n'y a pas du tout de volonté d'idéalisation, de volonté d'échapper au corps par l'art. Au contraire, il y a une volonté de revenir au corps par l'art. Et là, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même, un distinguo fondamental.
Oui, très nettement, oui. Le funk, funky, voulait dire puer, renvoyer aux odeurs.
Tout à fait.
Si je me trompe. Hein,
c'est ça, oui, funky, hein, c'est ce qui sent, une odeur animale, c'est de l'ordre de l'odeur.
Oui. Et la corporalité se joue aussi, d'ailleurs, dans le jazz qu'on disait funky, par des allusions, qui sont des allusions même dans les titres des morceaux, qui renvoient, effectivement. Alors, il y a des titres de morceaux qui sont argotiques, volontairement argotiques, et puis des titres de morceaux qui renvoient aux fonctions corporelles, même, oui. Et même à l'insanité. Hein. Je ne sais pas comment tu traduirais le morceau d'Ora Silver qui s'appelle Filthy McNasty.
J'y penserai.
Il y a un double dégueulasse dedans.
Oui,
Donc c'est bien renvoyer quelque chose à la face d'eux. Mm. Hein, c'est un petit peu la manière dont Miles Davis renvoie aussi.
Oui,
hein,
oui.
La face cachée, de la critique blanche, une forme
la face inavouable du corps occidental.
Qui remonte d'ailleurs au blues. Le blues, vous trouvez la même connotation.
Même ancrage.
Et puis qu'on retrouverait dans le rap aussi aujourd'hui.
Mais alors, justement, pour continuer un petit peu dans ce sens-là, donc sur la question de la distance culturelle, est-ce qu'il n'y a pas dans. Même si le tombeau est vide, c'est quand même un tombeau à John Coltrane. Et est-ce qu'il n'y a pas dans cette présentation d'une figure singulière, dont, comme une sorte de géant du jazz, avec sa dimension héroïque, sa dimension aussi, tu montres, tragique, sa dimension majestueuse, est-ce qu'il n'y a pas quand même une mise en avant de l'individu, un peu sur le modèle du occidental, du créateur romantique, hein, puissamment inspiré, mais solitaire, qui va à l'encontre de ce que tu montres par ailleurs, à savoir ce tissu inextricable d'où jaillit la performance de Coltrane, qui, même si elle est singulière dans son accentuation, dans son obstination, s'inscrit dans un réseau, dans un travail collectif qui va, bien sûr, d'où on aurait du mal qui va à l'encontre de cette iconisation, du travail d'iconisation qu'on pourrait voir affleurer dans la construction du tombeau.
Oui. Dans cette figure iconique de Coltrane, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est très profondément ancré dans la tradition du jazz et dans son évolution, au moins jusqu'à lui ou à sa génération, c'est la position du soliste improvisateur. Les grandes évolutions de l'histoire du jazz jusqu'à la génération de Coltrane ou à peu près ont été... globalement le fait d'improvisateurs et qui ont procédé à des conquêtes qui ont été des conquêtes techniques, harmoniques, mélodiques, etc. C'est dû à une tradition qui remonte à des à des pratiques qui étaient des pratiques d'émancipation, de posture, de combat même, hein, de bucking contest, etc. Il s'agissait symboliquement, dans une joute musicienne, dans l'improvisation, de tuer l'autre, hein, en quelque sorte. Hein, alors, je crois que ça a été possible jusqu'à un certain point, qui a été le point à partir duquel on pouvait beaucoup plus difficilement transgresser, parce que globalement, lorsque on a franchi un certain nombre d'étapes qui ont été l'extrême virtuosité qui a pu se décupler jusque dans la période du bebop, que l'on a enrichi harmoniquement avec, on va pas rentrer dans les techniques, mais enfin, des accords de passage, des substitutions, etc., etc., pour complexifier des enchaînements harmoniques, des grilles harmoniques, comme on dit en jazz, qu'on s'est affranchi du système tonal, pas à la façon de la musique classique contemporaine, mais avec certaines percées du free jazz, qu'on est allé explorer dans la modalité, l'usage de mode, que peut-on faire d'autre en termes transgressifs, hein, bon. Et on revient là à cette espèce d'homologation. C'est-à-dire que le jazz évolue aujourd'hui dans un système qui n'est pas, je dirais pas, éclos, mais l'enjeu n'est plus le même. L'enjeu n'est plus le même, et les jeunes musiciens, ou les musiciens des toutes dernières générations, n'ont plus cet espace de conquête, et donc non plus cette posture de soliste, hein, et d'émancipation, ce qui fait que, du coup, les critiques qui attendent systématiquement qu'il y ait un nouveau John Coltrane, ou un nouveau Ornette Coleman, ou un nouveau Messie, ou un nouveau, comme les titres l'ont dit, géant du jazz, etc., ou maître du jazz, se lèvent, en sont pour leurs frais. Je crois qu'il n'y en aura plus. Mais par contre, il y a toujours aujourd'hui des différences musiciennes. Mmh. Et il faut aller les écouter. Je crois que le musicien de jazz aujourd'hui, parce qu'il est improvisateur, alors même si l'improvisation est aussi le fruit d'un travail qui rend l'improvisation totale peu aléatoire quand même, c'est le cas de le dire, qui fonctionne avec une mémoire manipulée, avec des résurgences, etc. Mais ils peuvent toujours produire de la différence. Et je crois que c'est là qu'on va trouver, hein, effectivement, l'avenir du jazz dans des motifs qui sont organisationnels, d'autres façons d'être ensemble, on y revient sur le pluriel, d'autres façons d'agencer les lignes rythmiques et mélodiques, éventuellement en trouvant d'autres modes d'inflexion, d'autres modes de pulsation. Un musicien comme Steve Coleman, par exemple, fait des réemplois qui vont chercher, montrer des cousinages avec à la fois les rythmiques funk, les rythmiques du rap, la clave de la musique cubaine, etc.
Oui, je te poserai une dernière question, puis après je pense qu'on pourra ouvrir le débat. Il y a un point de ton exposé qui m'a sollicité, c'est la question du spirituel ou de la spiritualité. J'ai senti qu'il y avait une difficulté à aborder cette question-là. Voilà, bon, un aspect de la musique de Coltrane, en tout cas un aspect de son travail, même si on conçoit bien qu'un travail pareil implique justement un engagement de l'être dans toutes ses dimensions, y compris physique, on vient de le dire, mais pas seulement physique, et une énergie qui va au-delà de la gestion d'une carrière. Pourquoi cette réticence quand même assez fréquente, hein, me semble-t-il, dans la critique, en tout cas c'est ce que tu montres, à aborder cet aspect du travail de Coltrane?
Parce que c'est d'un abord extrêmement difficile. D'abord, Coltrane s'est très peu exprimé sur ses convictions et sur sa spiritualité. Elle est très ostentatoire à partir d'un certain moment de sa carrière, à la fois dans la démarche, dans l'inspiration, dans les titres qu'il donne à ses compositions. Elle est rehaussée quelquefois par des éléments qui viennent un petit peu comme des artefacts extérieurs. Il y a certaines pochettes qui sont quand même très, très, très kitsch, mais là, ce sont les producteurs qui doivent en rajouter une couche. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait une énergie considérable et une transcendance qui véhicule le musicien quand il s'agit de le porter sur une carrière qui a été très courte, parce que c'est en fait une douzaine d'années, avec une telle force, hein, dans le sens du terme. Alors, ensuite, c'est très difficile à aborder parce que il y a des convictions qui sont diffuses. Il y a une espèce de panthéisme qui passe par plusieurs modes d'approche de religion contemplative qui vont se mêler de façon un petit peu informe par moment. Et donc là, ça rend l'étude extrêmement difficile aussi. Alors on peut essayer de trouver d'autres éléments par des musiciens interposés, notamment McCoy Tyner, qui lui aussi avait une affirmation très, très religieuse de son être musicien, même s'il la vivait de façon différente de Coltrane, se disant musulman, ce que n'était pas Coltrane, mais en même temps se disant musulman, mais avec, là encore, chez McCoy Tyner, une spiritualité qui est très, très, très diffuse. Donc là, il y a une espèce d'opacité. En même temps, alors, il faut bien dire que cet engagement spirituel de Coltrane a été perçu très, très différemment, soit correspondant à une période qui était une période qui s'accommodait bien de ce qui était de façon très, très artificielle, y compris dans le rock, de tout un attirail, hein, si l'on peut dire, qui a été un attirail mystique plaqué de façon artificielle, ou alors d'un autre côté, dans une critique qui a été une critique assez radicale de cet engagement pour des motifs qui ont été des motifs politiques. Nous étions dans une période qui était une période de revendication. Alors, aux États-Unis, bien sûr, mais en France également, l'analyse du jazz et du free jazz et du jazz de cette époque a largement été le fait de critiques de gauche avec une critique marxiste qui fait qu'on s'accommodait mal de cette spiritualité et de quelquefois ce que certains n'ont pas hésité à appeler des bondieuseries tout à fait inacceptables. Oui. Et donc ça fait un rideau qui est difficile à franchir. En revanche, il me semble qu'on peut arriver à trouver, et avec l'aide aussi de McCoy Tyner, qui a été en quelque sorte pendant toute une période, notamment jusqu'à la fin des années 70, une sorte de dépositaire des manes coltraniennes et de la spiritualité coltranienne, une forme de posture qui met plutôt les musiciens dans cette position d'intercesseur avec une divinité qui reste diffuse, avec également une forme de posture qui ramènerait vers une sorte de tentative de réenchantement du monde, avec un aspect cosmique qui vient se mêler aussi dans la toute dernière partie de tout dernier enregistrement, la carrière de Coltrane. Donc ça peut être des angles d'attaque, mais c'est effectivement quelque chose qui est très, très difficile d'aborder.
Merci Xavier.
Merci à toi de cette belle lecture. Merci à tous.